France Inter, il est 7h.
France Inter, Léa Salamé, Nicolas Demorand. Le 7-9.
Bienvenue sur Inter, bonjour à tous. Nous sommes le mardi 2 septembre. Agnès Soubiran, bonjour.
Bonjour.
À la une de l'actualité ce matin et à la une de ce 7-9, un procès pour l'histoire. 5 ans après les attentats de Charlie Hebdo, de Montrouge et de l'Hypercacher et la mort de 17 personnes. Un procès filmé qui va durer 2 mois et demi pour donner la parole aux victimes, aux familles et juger 14 accusés plus ou moins proches des 3 terroristes tué en janvier 2015. On y revient en longueur, Agnès, après les autres titres.
Passe ton test d'abord. Mot d'ordre cette année de la rentrée dans les grandes écoles. Le mode d'emploi de la prime Rénov, doté d'un budget de près de 2 milliards d'euros. Et puis une Mostra de Venise aux airs de bal masqué.
Et les invités d'Inter, donc, à 7h50, Léa.
Charb, Cabu, Tinius, il a défendu ses amis des dizaines de fois. Aujourd'hui qu'ils sont morts, il sera l'avocat de la personne morale, Charlie Hebdo. Il dit, ma cliente sera la liberté et je crains qu'elle ne soit une cause perdue. Il dit la situation est bien pire qu'il y a 5 ans. Fiévreux mais combatif, Richard Malka sera notre invité à 7h50.
A tout à l'heure Léa, 8h20, le grand entretien de la matinale avec l'écrivain Emmanuel Carrère pour son nouveau livre Yoga, publié chez POL. On est très heureux de le recevoir. Vos questions dès maintenant, le standard vous attend. 01 45 24 7000.
France Inter.
C'est un de ces événements dont on se souvient précisément des années après, dans quelles conditions on en a pris connaissance. Ce mercredi 7 janvier 2015, un peu avant midi, nous étions au bureau, sur le chemin de l'école, dans un train. Le numéro 1177 de Charlie Hebdo venait de sortir dans les kiosques et soudain, les premiers coups de feu ont résonné dans la salle de rédaction. Au fil des heures, la liste des victimes s'est allongée. Les attentats de Charlie Hebdo, de Montrouge et de l'Hypercacher ont fait 17 morts, plusieurs blessés. Les 3 terroristes ont été tués par les forces de l'ordre et aujourd'hui, c'est le procès de 13 hommes et une femme qui s'ouvre à Paris. Bonjour Charlotte Piré.
Bonjour.
Vous êtes en direct du tribunal judiciaire de Paris dans le quartier des Batignolles. Charlotte, l'audience doit débuter à 9h30.
Et pour l'instant, le tribunal s'éveille à peine. Les portes des salles d'audience doivent s'ouvrir à 8h30. Les portes, car pas moins de 4 salles de retransmission vidéo sont réquisitionnées en plus de la salle d'audience pour ce procès aux dimensions multiples, historiques. Bien sûr, l'audience, et c'est une première dans des faits de terrorisme, sera ainsi intégralement filmée. Cathartique aussi pour l'ensemble de notre société. On se souvient de l'émotion suscitée par ces attentats, les près de 4 millions de personnes dans les rues. Et bien sûr, pour les victimes et leurs familles, 200 personnes se sont constituées partie civile. Parmi elles, Gala Renault, veuve de Michel Renault, qui était l'invité de Cabu ce 7 janvier 2015 et qui est mort à ses côtés dans la salle de rédaction de Charlie Hebdo. Gala Renault sait déjà ce qu'elle veut dire à la barre aux accusés quand viendra pour elle le moment de témoigner.
Je vais parler de mon mari. Je veux que ces gens sachent qui était Michel Renault. Michel était humaniste. Il a consacré sa vie à servir les autres, à servir son pays, à servir les gens du monde entier. C'est comme s'il tuait, en fait, ce qui est l'essence de la vie. Voilà, je pense que l'essentiel, ce n'est pas parler de notre souffrance. Même si c'est tellement évident, c'est quelque chose qui ne disparaîtra jamais. Est-ce qu'après une telle tragédie, on peut vivre normalement ?
Gala Renault, qui, comme tous les proches des victimes décédées dans la rédaction de Charlie Hebdo, sera attendu en fin de semaine prochaine pour son témoignage à l'audience.
Ces accusés, Charlotte, dont parle Gala Renault, sont 14 jugés par la cour d'assises spécialement composée.
3 sont en fuite ou probablement morts et ils seront donc 11 répartis dans 2 boxes vitrées et sécurisées avec pour les défendre beaucoup de jeunes avocats, certains commis d'office dans la procédure et qui devront trouver ce difficile point d'équilibre entre leur travail de défense et l'émotion qu'en tant que citoyen ils éprouvent toujours à l'évocation de ces attentats. Écoutez maître Beryl Brown qui défend l'un des accusés.
C'est pas un procès qu'on aborde de la même manière que les procès communs des assises. Et puis, je pense que chacun, et j'en fais partie également, on a tous un lien avec cette histoire. Après, c'est un clivage qu'on dépasse très rapidement parce que quand on est avocat de la défense, on défend les gens avant tout. On ne se pose jamais la question de se dire qu'ont-ils fait. Ça n'est pas à nous de répondre à cette question, c'est au ministère public.
Maître Beryl Braun, à quelques heures de ce procès qui doit s'ouvrir, rappelons-le également, sous très haute sécurité pendant 2 mois et demi ici, le tribunal aura des allures de forteresse.
Merci Charlotte Piret, en direct donc du tribunal avec Benjamin Thiot pour les moyens techniques. Vous suivrez avec Sophie Parmentier ce procès en intégralité pour France Inter, compte rendu d'audience à retrouver dans nos journaux et chaque soir sur franceinter.fr avec les dessins exclusifs de Mathieu Boucheron. Tout ça pour ça, titre ce matin Charlie Hebdo, qui republie les caricatures de Mahomet, déjà publiées en 2006. « Nous ne nous coucherons jamais, nous ne renoncerons jamais », écrit Riss, le directeur de la publication, dans son édito. Un droit au blasphème que défend Emmanuel Macron. Le chef de l'État s'est exprimé hier depuis Beyrouth.
Il y a aussi en France une liberté de blasphémer, qui est attachée à la liberté de conscience. Et donc de là où je suis là pour protéger toutes ces libertés. Et donc je n'ai pas à qualifier le choix de journaliste, j'ai juste à dire, en France, on peut critiquer des gouvernants, un président, blasphémer, etc. Ce droit de critiquer ou de blasphémer, je ne parle pas du tout de Charlie Hebdo, mais de plus largement ce qu'on peut voir dans notre société, il implique en revers une décence commune, une civilité, un respect. Parce qu'il y a en France toutes ces libertés, la liberté de conscience, la liberté d'expression, une liberté des journalistes de faire ses choix, une liberté de blasphème, il y a le devoir de ne pas avoir de discours de haine et de respecter. La caricature n'est pas un discours de haine.
Un propos recueilli par Christian Chesneau. Et à 8h10, donc, Richard Malka, l'avocat de Charlie Hebdo, sera l'invité du 7-9 d'Inter.
Il est 7h06, Agnès, après la rentrée dans le primaire et le secondaire, et hier, la rentrée dans les grandes écoles.
Une rentrée sur fond de reprise de l'épidémie, notamment chez les jeunes, avec des contaminations en hausse de 67% chez les 15-44 ans la semaine dernière par rapport à la semaine précédente. Les grandes écoles mettent donc en place un protocole sanitaire strict. Les journées d'intégration sont la plupart du temps annulées et nombreuses sont les écoles qui demandent également aux étudiants de fournir un test négatif au Covid. Faustine Calmel.
Pour cette rentrée si particulière, les 450 étudiants de la Web School Factory à Paris vont tous se plier à un prélèvement nasal, test PCR dans les locaux de l'école à partir de la mi-septembre.
Du coup, on fait des pré-rentrées administratives 48 heures avant les rentrées, puisque c'est le délai pour avoir les résultats des tests.
Anne Lalou est la directrice de l'établissement. Elle a passé un partenariat avec un groupe de laboratoires et assure n'avoir, du moins pour l'instant, essuyé aucun refus de ses élèves.
La question ne s'est pas posée. Je ne vois pas du tout pourquoi ça arriverait, mais on lui demanderait de nous fournir un test s'il ne souhaite pas le faire dans le cadre de l'école.
Un test réalisé à l'extérieur, comme HEC aussi l'exige de ses 3000 étudiants français et étrangers. Mais en l'absence de cadre légal dans l'enseignement public, par exemple, les universités n'ont pas le droit d'exiger ce test. Eh bien, il a fallu réécrire le règlement, explique Éric Ponsonnet, directeur général adjoint.
On est une institution privée et donc ça rentre dans le cadre de la relation, je dirais, contractuelle avec nos étudiants et du règlement intérieur qui a été ajusté pour dire qu'en période de pandémie, nous pouvons prendre toutes les mesures pour garantir finalement la sécurité sanitaire de l'ensemble de la communauté et que c'est dans l'intérêt de tout le monde de s'y plier.
Pour les étudiants qui ne fourniraient pas ce test, l'accès au campus resterait interdit, mais tous les cours sont disponibles en ligne, précise HEC.
Reportage de Faustine Calmel. Près de 5000 nouveaux cas recensés au cours des dernières 24 heures. 19 malades sont morts et 53 nouveaux foyers de contamination ont été découverts. Dans le monde, la pandémie a fait plus de 850 000 morts. Les pays les plus touchés étant les États-Unis, le Brésil, l'Inde, le Mexique et le Royaume-Uni. La Nouvelle-Calédonie vient d'annoncer la prolongation des restrictions aux frontières de l'archipel jusqu'à fin mars 2021. Tout arrivant est placé en quarantaine dans un hôtel réquisitionné et doit se soumettre à un test PCR. Il était l'ancien chef Khmer Rouge de la terrible prison S21 où 15 000 personnes ont été torturées et exécutées à la fin des années 70 au Cambodge. Duch vient de mourir à 77 ans. Lors de son procès il y a 10 ans, il avait dans un premier temps reconnu sa responsabilité avant de faire appel et d'affirmer qu'il n'était qu'un simple secrétaire du régime. Duch avait été condamné à la réclusion criminelle à perpétuité. Retour en France avec la rénovation énergétique des bâtiments. C'est l'un des secteurs prioritaires du vaste plan de relance économique qui doit être annoncé demain. Il s'agit de changer ses fenêtres, d'isoler ses murs ou de remplacer les vieilles chaudières au fioul. 7 milliards d'euros devraient être consacrés à la rénovation thermique et pour convaincre les propriétaires, souvent réticents à se lancer lancée dans des travaux. Le gouvernement va notamment muscler la principale prime, ma prime rénov, lancée en janvier dernier. Mode d'emploi avec Sandy Dauphin.
Près de 2 milliards d'euros du plan de relance sont prévus pour le dispositif ma prime rénov, deux fois plus qu'avant. Cette aide sert à financer des travaux d'économie d'énergie, l'isolation ou le chauffage. Lancé en janvier dernier pour les foyers modestes, le dispositif va bientôt être accessible à tous les propriétaires. Frédéric Houtzmann, président fondateur du groupe EFI, spécialiste de la rénovation énergétique, espère que cette énième réforme sera la bonne.
Ce qu'on attend, c'est une stabilité dans le temps de ces aides, parce que ça change tout le temps et que c'est compliqué à la fois pour les artisans et bien sûr pour les particuliers, et des contrôles assez massifs des chantiers qui sont réalisés de manière à s'assurer de la qualité de ce qui est fait.
Des contrôles pour rassurer les propriétaires, car le coût des travaux n'est pas le seul critère qui les fait hésiter.
Le premier frein qui empêche les Français de passer à l'acte et de faire des travaux de rénovation énergétique, c'est la peur et le manque de confiance. Confiance dans les artisans qui vont intervenir chez eux, confiance dans l'obtention des aides auxquelles ils ont peut-être droit mais ils ne savent pas trop comment.
Pour généraliser les travaux de rénovation énergétique, il faut aussi structurer une filière.
Malheureusement, la filière n'est pas prête. On crée de l'emploi en France, c'est un emploi local. Voilà, ça contribue évidemment à la planète. Et malheureusement, il y a assez peu de jeunes ou de moins jeunes qui se lancent dans ce secteur.
Depuis janvier dernier, 85 000 particuliers ont déposé une demande pour obtenir la subvention MaPrimeRénov. Le gouvernement espère en séduire beaucoup plus.
La cinquième étape du Tour de France, aujourd'hui 183 km entre Gap et Privas. Julian Alaphilippe est toujours en jaune. Victoire d'étape hier pour le Slovène Primoz Roglic. Des masques à Venise pour la 77e édition de la Mostra qui démarre ce soir. Moins de public, moins de films, moins de vedettes, coronavirus oblige, moins de glamour donc. Mais la tenue de ce premier festival international de cinéma depuis 6 mois est tout de même le signe, Corinne Pellissier, que l'activité progressivement redémarre.
Des dizaines de fans en bord de tapis rouge avec l'espoir d'un autographe ou d'un selfie avec Brad Pitt, scène ordinaire de festival d'avant Covid, qui n'a plus aucune chance aujourd'hui de se reproduire. Les vedettes américaines, grandes pourvoyeuses de glamour, sont restées chez elles et pour éviter les attroupements sur l'île du Lido, l'organisation du festival a décidé cette année d'édifier un grand mur entre le Palazzo del Cinema et le public. En remplacement, des écrans géants retransmettront l'arrivée des équipes de films, mais en différé, et dans les salles, ce sera port du masque et distance physique obligatoire. L'Italie, qui a déjà payé un lourd tribut à la crise sanitaire, veut éviter la formation de nouveaux foyers de contamination et prévoit des conditions d'accès très strictes, avec des caméras thermiques et un test obligatoire pour les ressortissants extérieurs à l'espace Schengen. Et si le nombre de catégories est lui aussi limité cette année, la compétition, elle aura bien lieu, signe que les affaires redémarrent. Certains cinéastes n'interviendront en vidéoconférence pour un total de 18 films en lice pour un Lion d'Or, dont la moitié quasiment réalisée par des femmes. Nicole Garcia, la seule française à bord, Chloé Zhao ou encore Julia von Heinz avec un film sur le thème des violences racistes en Allemagne.
Corinne Pellissier, donc pour la Mostra de Venise qui débute ce soir, 18 films en compétition et 10 jours avant de décerner le fameux Lion d'Or.
Merci Agnès Soubiran.